Les derniers des assaillis, livre publié il y a quelques mois d'Alain Bergeron. Entretien avec l'auteur qui nous fait découvrir avec ce livre, notamment les assaillis, équipe de baseball de la côte ouest. Alain Bergeron, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre livre, Les derniers des assaillis. Les assaillis, c'est une équipe de baseball de la région de Vancouver, qui a joué au siècle dernier, des années 10 jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et là-dessus, on parle de baseball, on parle des assaillis beaucoup, on parle du sort qui a été réservé aux Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été dépossédés de tout ce qu'ils avaient, très injustement, il faut bien quand même le mentionner. Mm-hmm. On les a internés. C'est quoi qui était la base de ce livre-là, le sort des Japonais ou cette équipe de baseball, qui, je veux juste le souligner, là, qui a marqué la Colombie-Britannique et qui est au temple de la renommée du baseball canadien. Oui, qu'est-ce qui était à la base, les assaillis ou le sort des Japonais?
C'est les assaillis qui m'ont allumé sur le sort des Canadiens et Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais aucune idée de l'internement dont il avait été victime. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'équipe de baseball. D'ailleurs, le premier contact que j'ai eu avec les assaillis, c'est le livret de timbre que j'ai aperçu au bureau de poste. Et je savais pas c'était quoi les assaillis, pourquoi il y avait un timbre à leur honneur. Ça avait l'air des Japonais, comment ça, qu'est-ce qui se passait. Et c'est là que j'ai découvert, c'était une équipe de baseball mythique, comme vous l'avez si bien souligné. Mais derrière ça, la dernière saison de baseball, 1941, pourquoi ils n'ont pas continué après? Parce que à cause de Pearl Harbor, en décembre 1941, et puis l'internement qui a suivi, les Canadiens japonais ont été carrément chassés de la côte ouest, ils ont été dépossédés de tout ce qu'il y avait, et c'est quelque chose dont j'avais jamais, jamais entendu parler. Initialement, je voulais écrire l'histoire d'une recrue, Bobby Chuteau, qui va passer la dernière saison des assaillis, celle de 1941, et comme j'avais beaucoup de documentation sur le sujet, je me disais, je vais le suivre pendant la saison. Et une fois que la saison est terminée, j'ajoute deux lignes ou trois lignes pour dire il y a eu un internement. Mais en travaillant sur le sujet, en faisant les recherches, là, j'ai été happé par l'idée, par le sujet de l'internement, et ça a mené à 5 années de travail et de recherche et de cauchemar, là, parce que c'était vraiment pas drôle. Là. Il était envoyé dans des camps d'internement où il n'y avait ni plomberie, ni eau courante, ni électricité. Les gens de la côte ouest qui étaient chassés de chez eux dans un environnement épouvantable. Et puis, sur place, on les dépossédait de leurs biens pour une fraction du prix. Et ils devaient en plus payer pour leur internement. Alors, ça a été... Mais je gardais toujours l'idée du baseball tout le long, parce qu'on suit Bobby Chuteau jusqu'à la fin de sa vie. Alors, tout le long, c'est le baseball qui était la ligne maîtresse de tout ça, qui devait, parce que les partisans canadiens-japonais qui demeuraient dans la région de Vancouver étaient des grands, grands, grands fans de baseball aussi.
Oui, j'ai eu l'occasion de le lire. Marc, toi aussi, t'as dévoré ce livre-là.
Écoute, premièrement, merci Alain, parce que moi aussi, je connaissais pas ça, je connaissais pas l'histoire. Puis moi, j'ai vécu 2 ans à Vancouver pour le baseball.
Ah oui?
C'est venu me chercher un petit peu parce que, évidemment, lorsqu'on reste à Vancouver, on s'aperçoit qu'il y a quand même une communauté asiatique importante. Alors, de lire ça, de lire que, tout ce qu'ils ont vécu, là, les Canadiens japonais, ma foi, c'était comme, ça avait absolument aucun sens. J'aurais aimé ça le savoir une fois que j'étais là-bas. Je sais pas, j'aurais peut-être agi différemment, mais ce qui était frustrant, en fait, à la lecture du livre, c'est qu'il y avait des véritables Canadiens qui étaient d'origine japonaise, mais on a complètement fait fi de ça, là.
Oui, c'est ça. La côte ouest, il estimait qu'il y avait à peu près 22 000 Canadiens japonais, dont la forte majorité était née au Canada. C'était des citoyens canadiens. Sauf qu'ils étaient déjà victimes de racisme, puis les autorités s'en cachaient même pas. Mais avec le bombardement de Pearl Harbor, ils ont profité du fait pour se débarrasser du problème japonais, comme ils disaient. Alors, il y a eu les couvre-feux, il y a eu l'expulsion, comme on parlait. Ils ont été les femmes, les enfants, les hommes étaient envoyés dans des camps de travaux forcés. S'il refusait, ben là, il était envoyé en prison, dans des camps vraiment très, très difficiles, éloignés de leur famille. Des fois, il y avait 24 heures pour débarrasser la maison. Et puis, quand ils partaient de leur maison, qu'ils laissaient sans surveillance, ben, les pilleurs allaient dans les maisons, puis ils vidaient la maison carrément, sans que la police intervienne, rien. Alors, ces gens-là ont vécu le calvaire là, pendant ces années-là. Et en plus, ben, comme je disais, là, ils n'ont pas eu du tout de remboursement sur tout ce qui leur a été enlevé. C'est assez frustrant, c'est un bon mot, là. Moi, je dirais même cauchemardesque, là.
Et on va parler des assaillis. Les
Oui.
assaillis n'ont pas joué seulement sur le plan local, mais régional aussi. Et ils ont gagné des titres dans le nord-ouest
Oui.
du continent. Ils ont traversé la frontière. Ça veut dire qu'on a joué probablement dans des équipes, bon, des équipes amateurs de la région de Seattle,
Théâtre,
là
oui.
où le baseball était quand même assez populaire. Donc, les assaillis se sont organisés pour avoir des équipes de très, très bonne qualité. Bon, c'est la partie autour de 1914 jusqu'en 1941. Le baseball était rassembleur pour cette communauté, pas sino, mais
Canadien-japonaise.
gallo-japonaise.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'était le seul moment où les Japonais, Canadiens-japonais, je précise tout le temps Canadiens-japonais, hein, que les Canadiens-japonais étaient les égaux des Blancs. C'était sur le terrain de balle. Parce que les équipes japonaises, canadiennes-japonaises, les assaillis, même s'ils étaient plus petits physiquement, ils compensaient face aux équipes de Blancs par leur jeu intelligent, par les coups retenus, par les buts volés, par les coups filés, par les vols de marbre. Alors, ils compensaient ce qu'ils n'avaient pas physiquement, ben ils compensaient par la rapidité. Et les partisans canadiens-japonais, ben c'était des dieux pour eux autres, hein, les joueurs de baseball. Puis on parle de baseball amateur. Alors, il y avait un travail le jour et le soir quand ils jouaient, ben la petite Tokyo, les gens qui demeuraient autour du terrain Powell où étaient disputés les matchs, ben tout fermait. Et les gens allaient voir les matchs de baseball. C'est un petit stade de rien du tout, là. Il y avait des estrades de bois de 4 à 5 rangées, mais il s'empilait 2 000, 3 000 personnes. Et comme c'était un terrain particulier qui était rectangulaire, il n'y avait pas de clôture au bout. Alors, c'est les partisans qui formaient la clôture, physiquement la clôture. Et quand il y avait des coups qui étaient frappés par l'équipe locale, par les Japonais, quand ils étaient frappés vers la foule, ben les partisans canadiens-japonais, ils se tassaient pas trop pour aider l'autre équipe. Mais quand c'était les adversaires des assaillis qui frappaient la balle vers la foule qui formait la clôture, alors le joueur avait juste à dire « Tassez-vous, tassez-vous », puis les gens se tassaient pour permettre aux joueurs d'attraper la balle. Alors oui, ils ont gagné plusieurs championnats, les assaillis, 4 ou 5 justement, le championnat nord-américain de baseball. Ils ont gagné des championnats de ligue. Et ce qui faisait qu'ils étaient aussi bons aussi, c'est qu'ils avaient compris le principe du club ferme. Alors, dès leurs jeunes âges, les jeunes assaillis de 8-9 ans étaient déjà dans des clubs de baseball et ils étaient entraînés dans le but de participer avec le grand club. Je m'excuse, le grand club des assaillis. Toujours le baseball amateur.
Oui, Marc aurait probablement très apprécié la façon dont ça se jouait.
Ben, moi, je vais te dire, Alain, ça a été très bien décrit, hein, parce que effectivement, là, on a parlé, bon, que c'était pas des physiques imposants, mais qui compensaient par leur intelligence sur le terrain. On pourrait parler de 2024, ça serait encore la même chose. Il y a des exceptions, il y a des gars physiquement qui sont un petit peu plus costauds, mais ça reste que la majorité de l'équipe nationale. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'immense privilège de jouer contre l'équipe nationale du Japon à plusieurs reprises, puis
Oui.
c'était carrément ça. C'était bien décrit parce que, effectivement, je veux dire, eux, regarder un avant-match, je parle pas du match, mais une préparation
Oui.
d'avant-match d'une équipe japonaise, c'est spectaculaire. C'est un spectacle. Il y a 5, 6, 7, 8 balles à la fois. Il y a personne qui l'échappe. C'est une discipline qu'on n'a jamais réussi à transporter ici, vraiment. Puis j'ai beaucoup aimé parce que, bon, on parlait du passage du terrain. Les fameuses fausses balles, les
Oui.
fameuses vitres brisées, tu sais, ça, là, c'est fantastique. Ça décrivait très bien l'époque de ces petits stades contemporains où, là, ben, c'est un peu c'est communautaire tout ce qui se passait là.
Merci, Marc. Ben oui, qui pigeait, il devait être obligé de rembourser les fenêtres qui étaient cassées et les recettes n'étaient pas toujours très, très phénoménales non plus, là, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient gratuitement. Donc, ça leur coûtait. Il y avait toujours des balles cassées, des fenêtres qui étaient cassées par les balles, des fausses balles, beaucoup de fausses balles. Puis si on regarde sur le. Si on va sur Google Maps et qu'on va se promener dans Vancouver, dans cette portion-là, les buildings sont pas mal les mêmes qu'à l'époque. Et on voit justement le gros building, l'hôtel Tamara, si je me souviens bien, qui était en arrière du marbre. Et effectivement, il y a eu beaucoup de vitres qui ont été cassées là. Puis dans les environs aussi. C'était le terrain de balle était un personnage en soi, là. C'était vraiment. J'étais content d'être. Ben, merci des compliments. J'étais content de l'avoir bien, bien, bien rendu. C'est dommage que tout ça ait été terminé parce que jusqu'où ils seraient rendus, cette équipe-là des Assaillis, parce qu'il y a des jeunes qui montaient, qui auraient pu être très, très bons aussi. Il y avait des dépisteurs qui commençaient à s'intéresser un peu plus aux joueurs des Assaillis aussi. Peut-être qu'on aurait vu. Je ne sais pas, peut-être des joueurs japonais éventuellement dans la Ligue nationale de baseball, la Ligue américaine. On ne sait jamais ça.
Ouais.
On ne saura jamais.
Bobby Shuto, c'est
Oui.
un personnage fictif qui
Oui.
est au centre de votre livre, mais vous l'avez entouré de personnages qui sont pas fictifs du tout. Même en dehors du baseball, je pense à David Suzuki, entre autres, là, qui m'a rejoint de façon particulière, mais même les autres joueurs qui entourent Bobby Shuto, c'est pas relevé de votre imagination pure, là. Ce sont des joueurs qui ont vraiment existé.
Ouais, j'ai pas eu à inventer grand-chose, à part Bobby Chouteau et son meilleur ami. J'ai pas eu à inventer grand-chose. Je me suis vraiment inspiré. Ce qu'on lit dans le livre, ça s'est réellement passé. C'est des anecdotes de parties de baseball. Moi, je suis un grand fan de baseball, là, les expos, oui. Curieusement, j'ai jamais joué parce que je joue à la balle molle, mais je savais exactement ce qui se passait dans la tête d'un lanceur parce que j'ai lancé dans une vie antérieure, là, quand j'étais un jeune homme. Et donc, c'est ça. Bobby Chouteau, je l'ai entouré de joueurs qui ont vraiment joué. Kei Kamenichi, qui est décédé dernièrement à 102 ans. Bon, mais c'était l'ambassadeur des Assaillis. Un monsieur très humble, très attachant aussi. J'ai eu une balle de baseball dédicacée par Kei Kamenichi que je garde précieusement. Je l'ai ici, là, justement. Là, ça,
Wow.
ouais, ça, c'est un beau petit trésor pour moi. Ça, c'est devenu un trésor familial. Kazuga, qui était le frappeur gaucher, peut-être un des meilleurs joueurs de son époque sur la côte ouest. S'il y avait eu des Canadiens japonais qui avaient joué au baseball, ben je pense que lui il aurait pu en être un. Il était un lanceur également. Son frère Kiyoshi, donc tous les joueurs de baseball qui ont joué contre lui aussi, contre les Assaillis aussi, c'est des joueurs qui ont vraiment existé. À part le fichu de Stan Morton là, qui visait Chuteau à la tête. Mais il y en avait des joueurs de baseball qui jouaient contre eux autres, qui n'aimaient pas du tout, qui étaient racistes, qui n'aimaient pas les Canadiens japonais, puis ils faisaient tout pour les blesser. Et puis, bon, ben, une fois qu'ils sont retrouvés dans les camps d'internement, qui ont passé par les camps d'internement, ben ce que j'ai raconté, ça s'est vraiment passé.
Oui.
Kei Kamenichi, au camp de East Lillooet, ben, il a pu franchir le pont qui leur était interdit pour accéder au village voisin et aller jouer au baseball contre une équipe formée de villageois et de gens qui devaient ce qui était à l'époque la gendarmerie royale canadienne. Ils ont joué contre eux et ça a permis de déségrationner, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la ville de Lillooet et les gens ont pu avoir une certaine liberté dans ce coin de pays-là. Et après, ben, quand ils ont été chassés, je reviens toujours au baseball, quand ils ont été chassés de la côte ouest, parce que quand la guerre a été terminée, ils n'ont pas eu le droit de retourner à Vancouver. Ça leur était interdit. Ils devaient aller au Japon, où ils n'étaient pas nés, ils ne connaissaient pas ce pays-là, ou aller à l'est du Canada. Plusieurs se sont installés au Québec. Et bon, ben, les Lions de Saint-Jérôme, ouais, c'est ça. Pour qui a joué Bobby Chouteau et Kashuga? Ben, Kashuga a vraiment joué pour les Lions de Saint-Jérôme. Il s'est vraiment cassé la cheville en glissant au deuxième but. Et ben, les gens dans les estrades ont vraiment fait une collecte pour lui ramasser de l'argent pour essayer de payer pour les frais d'hôpitaux. Alors, c'est ça. David Suzuki, qui était un petit bonhomme de 7 ou 8 ans quand il s'est retrouvé dans le camp de New Denver, ben, il était harcelé par des jeunes Japonais parce qu'il n'était pas assez Canadien. Et en même temps, lui disait, pour les Canadiens, je suis trop Japonais. Donc, il ne savait pas trop quoi faire avec ça, ce pauvre petit bonhomme-là. Alors ça, j'ai repris ça directement d'une histoire que David Suzuki racontait. C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de documentation en anglais sur les assaillis, sur les Canadiens-Japonais, mais il n'y a presque rien en français. Donc, je trouvais que c'était une idée intéressante de raconter l'histoire des Canadiens-Japonais par le baseball et par nos amis des assaillis.
Oui, à Saint-Jérôme, juste à souligner, Saint-Jérôme, c'était la Ligue Laurentienne, Marc. Et c'est une ligue dont on ne parle pas beaucoup, mais qui était de très, très bon calibre après
Oui.
la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Marc.
Ben, écoute, moi, je trouve ça fascinant parce que, un, bon, j'aime l'histoire, j'aime le baseball, puis là, on rassemble tout,
Oui.
d'apprendre tout ça, mais Alain en a glissé un mot tantôt, mais c'est là qu'on s'aperçoit que le baseball est très rassembleur, est très familial, puis ça a vraiment aidé, t'sais, beaucoup de monde là, à travers là, toutes les ennuis que ces Canadiens-Japonais-là ont subis, là.
Oui, c'était très, très, très rassembleur, autant quand ils étaient au terrain Powell que quand ils ont été en exil à l'intérieur des provinces en Colombie-Britannique et qui ont commencé à se former un club de baseball pour amener un peu de vie dans ces camps-là, de mettre un petit peu de couleur. Alors, pendant que les gens jouaient au baseball, pendant que les gens regardaient le baseball, parce qu'on De ce que j'ai lu, c'est que les Canadiens-Japonais, ben, une certaine partie de la population était vraiment folle de baseball, là. Alors, c'était
Oui.
un moyen pour eux de s'évader en jouant, en regardant. Ça a été la même chose quand ils sont venus en Ontario, au Québec aussi. C'est un outil d'intégration, le sport, hein, on le sait, hein, pour avoir joué, ça, là, on se fait des amis, on s'intègre dans la communauté. Alors, c'est exactement ça qui est arrivé pour Bobby Shuto, mais
Oui.
qui est arrivé aussi pour Kaz Suga et les autres Canadiens-Japonais qui étaient à Montréal là, quand on parle du livre. Là. Bon, encore une fois, j'ai pas eu à fouiller beaucoup de ce côté-là, à inventer grand-chose. C'était vraiment ça. C'est très, très rassembleur. C'est le bon mot. Et puis, c'est pour ça que j'ai gardé aussi l'idée du baseball tout le long du récit. C'était important pour moi parce que c'était la ligne maîtresse du récit. Le baseball, jusqu'à la fin d'ailleurs, quand il y a les retrouvailles de l'équipe en 1972, puis pour le lancement des ligues sur les assaillis, où Bobby Shuto va retourner dans l'Ouest canadien, ce qu'il n'avait pas fait du tout
Oui.
avant.
Un livre très prisé par les historiens d'ailleurs, puis il n'est pas donné de mémoire, là, parce qu'évidemment, avec le temps, bien, il se fait de plus en plus rare. Je veux qu'on termine avec un petit mot sur M. Kamenichi. Je dois dire personnellement, quand j'ai vu son nom, je n'ai pas pu faire autrement, Marc, c'est de ton époque, Scott Kamenichi. Tu te rappelles de lui,
Oui.
l'ancien, je me demande même si tu ne l'as pas affronté, parce que c'est pas mal de ton époque, Scott Kamenichi. Puis quand on regarde son visage, je dis, bon, probablement que son nom a été déformé en cours de route parce qu'il y a des airs asiatiques.
OK.
Évidemment, ils ont un ancêtre commun il y a quelques générations, j'imagine, mais il est central dans votre livre et ça donne qu'il est encore vivant. Au moment où vous avez écrit votre livre, il a été une source, j'imagine, importante là, de ce que vous avez écrit.
Oui, c'était un des points auxquels je tenais, c'est qu'il soit encore vivant quand le livre allait sortir, parce que en l'écrivant, puis en voyant, parce que c'était l'ambassadeur des assaillis, hein, ça a été le dernier des assaillis pendant de nombreuses années, là, il n'y avait pas d'autres représentants que lui, puis lui se faisait un plaisir de le faire. Il avait l'impression qu'il portait toutes les années des assaillis, il les portait sur son dos, puis il les portait fièrement, mais toujours humblement aussi. Donc, ma crainte, c'était que, bon, mais à raison de son âge avancé, qu'il décède avant la publication du livre, parce que c'était comme un hommage que je voulais rendre aux assaillis et à lui en particulier. Donc, quand le livre est sorti, j'étais très, très content, parce que j'étais en contact avec sa fille aussi, Joyce, qui reste à Burnaby, qui est pas loin en banlieue de Vancouver. Et donc, j'ai pu lui envoyer le livre, le montrer à son père, même s'il était en français. J'ai fait Google Translate sur les 400 pages là, tout en faisant les corrections là, parce que coussin, ça sonnait cochon en anglais là, dans le Google Translate de l'époque là. Fait que je leur ai envoyé toujours de façon très humble aussi là, quand même. Faisons preuve d'humilité dans tout ça. Fait que je lui ai envoyé en lui expliquant le contexte. Lui disant que le livre allait être publié au mois de mai l'année passée, cette année, et puis qu'on travaillait fort pour avoir une version en anglais. Et ils ont lu la version en anglais que je leur ai envoyée. Ils étaient très, très contents. Monsieur Kaminishi m'a envoyé une balle. Genre, j'ai reçu aussi un T-shirt. On ne le voit pas, là, mais il est en arrière de mon chandail des Assaillis, ici en arrière. Un chandail que je me suis fait venir pendant la pandémie pour me stimuler un peu, puis pour pas être découragé, parce que tout le long que j'écrivais, je me disais, est-ce que je suis digne d'écrire ça, cette histoire-là? Est-ce que je suis pas un peu comme un usurpateur, un imposteur? Je suis qui, moi, pour écrire l'histoire des Assaillis en français? Il y a eu des doutes, il y a eu beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de cauchemars aussi, parce que je me voyais dans les camps de concentration, là, c'était vraiment horrible. Puis en même temps, je me disais, je vais le faire, je pense que je suis capable de le faire. Puis on verra ce que ça fera. J'ai donné le meilleur de moi-même et puis ça a donné ce livre-là. Alors, Kekaminishi est décédé au mois d'octobre. Il avait 102 ans. C'était un monsieur, je reviens sur le fait que c'est un monsieur très, très humble. À Vancouver, le maire actuel voulait souligner l'héritage des Assaillis en nommant le 11 janvier la journée Kekaminishi. Le 11 janvier étant la date la journée anniversaire de M. Kaminishi. Mais lui, il voulait pas. Lui a dit, on va la mettre au nom des Assaillis, mais pas à mon nom personnel. C'est la seule condition qu'il acceptait. Et le maire a dit oui, OK, c'est d'accord. Alors, à tous les 11 janvier à Vancouver, on célèbre la journée des Assaillis grâce à M. K. Kaminishi. C'est un monsieur très, très gentil. J'ai une photo de lui où il tient le livre, qui est très souriant. Et ben ça fait pour moi c'est comme une petite récompense sur mes 5 années de travaux forcés ou presque là, pour ce livre-là. J'en suis très très fier. Alors j'ai écrit au-delà de 350 quelques livres. Et puis celui-là là, quand je le regarde là, je me dis ouais. J'ai fait une bonne job. Là ce qu'on aimerait c'est que le livre soit traduit en anglais pour rejoindre un plus grand public encore là. Il y a beaucoup de Canadiens japonais qui seraient intéressés par l'histoire, mais qui parlent seulement anglais. Donc, le fait que les livres soient en français, ça pourrait créer un obstacle. Puis, j'aimerais ça que le livre soit fasse l'objet d'une plus grande diffusion.
Ben, en tout cas, bravo. Il y a de quoi être fier.
Ben,
Moi, en tout
merci.
cas, vraiment, tu sais, ça se lit bien, mais les passages baseball sont très précis. Hein? On est des experts, nous autres.
Oui.
Mais en plus d'avoir tu sais, d'avoir tout le côté bon, historique de tout ça. Moi, en tout cas, bravo. Je souhaite qu'il soit traduit parce qu'effectivement, c'est le genre de livre que tu sais, que moi, je pourrais envoyer à bien des connaissances tu sais, qui pourraient aussi être éduquées par ce
Oui,
livre-là.
bien sûr. Puis, je sais dans l'Ouest canadien, il y a encore beaucoup. Dans les écoles, il y a beaucoup de documentation sur le sujet. Alors, le livre aurait sa place là, dans les écoles secondaires, là, parce que c'est un livre pour adultes, là, mais les jeunes du secondaire pourraient le lire facilement, j'en ai aucun doute.
Oui, Alain Bergeron, ça pourrait même être traduit en japonais. Si on veut aller plus loin, là,
Oui, effectivement.
on pourrait aller jusque-là. Alain Bergeron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le dernier des Assaillis, toujours disponible, il a été publié cette année, au mois de mai, donc encore disponible. C'est un livre qui raconte, oui, il y a une histoire de baseball, une partie d'histoire canadienne dont on peut pas être très, très fier, il faut bien
Non.
quand même l'admettre. C'est très touchant par moments. Si vous laissez prendre par le livre, là, ça va vous prendre au cœur à un moment donné. Alain nous en a parlé. Merci beaucoup, Alain Bergeron, pour le temps accordé aujourd'hui.
Allez, merci à vous deux, c'est super gentil.